La première lecture est dans le livre du prophète Ésaïe, les versets 4 à 7. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Là pour ce premier texte, le second dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, les versets 6 à 11. Et je commencerai avec le verset 5 d'ailleurs. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et l'évangile du jour se trouve tout naturellement, en ce jour des rameaux, dans l'évangile de Luc au chapitre 19, les versets 28 à 40. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin ». Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon ?» Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin ». Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisie de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Tes paroles, Seigneur, sont pour nous le souffle et la liberté. En elles, nous trouvons le bonheur et le sens de la vie. Voilà, c'est donc aujourd'hui le dimanche des rameaux et je voudrais introduire ce moment de méditation de notre texte du jour, de notre évangile du jour, en commençant par dire un mot à propos de l'ânon que Jésus envoie chercher. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin ». Alors juste une remarque sur ce verbe « Pourquoi le détachez-vous ». Le mot « louo », détaché, il revient par trois fois dans ces versets et il signifie en grec « délier, détacher, délivrer ». Et je crois que symboliquement, il s'agit bien de délivrance ici. La proximité des mots apparaît de manière très évidente dans d'autres textes de l'évangile de Luc. Par exemple, au chapitre 13, lorsque Jésus guérit et redresse cette femme qui était courbée depuis 18 ans. Le chef de la synagogue, à ce moment-là, s'en prend à la foule, lui reprochant de venir se faire guérir le jour du Shabbat. Et ce qui est important, c'est la réponse de Jésus. Il leur dit, « Hypocrite, est-ce que chacun de vous ne détache pas, l'ouau, de la crèche, son bœuf ou son âne pour l'amener boire, et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que sa tante n'est liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer, l'ouau, le jour du Shabbat ?» Et vous savez, c'est aussi le terme qu'emploie Jésus au moment de la résurrection de Lazare, quand Lazare sort comme il peut de son tombeau et qu'il est encore contenu dans ses liens qui l'empêchent de marcher. Jésus a cette parole, déliez-le et laissez-le aller. Oui, ce terme parle bien de délivrance. Et ici, dans notre texte, il parle aussi de délivrance. Mais de qui ? D'un âne. C'est Luther qui disait « L'homme est comme un âne, soit c'est Dieu qui est assis dessus, soit c'est le diable. » Oui, c'est un âne que Jésus envoie libérer. Et cet âne, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est moi et c'est nous tous. Oui, nous ne sommes que des ânes et le Seigneur veut nous libérer. Et pourquoi ? Quand on vous demandera, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Oui, nous pouvons être libérés aujourd'hui, délivrés de nos mauvaises habitudes, démobilisatrices, de nos amertumes, de nos rancœurs, de nos jalousies, de nos mauvaises pensées, de nos manques de pardon ou de courage, de nos doutes, de nos souffrances intérieures, de nos découragements, de nos jugements. Et de tout cela, nous pouvons être libérés, car le Seigneur a besoin de nous. Lorsqu'il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisie de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel » et gloire dans les lieux très hauts. » Alors on pourrait se poser la question, pourquoi cette entrée de Jésus comme ça à Jérusalem, de manière si ostensible, si publique ? Lui qui ne nous avait pas vraiment habitués à ça jusque-là, il avait plutôt tendance à fuir les honneurs, mais ce jour-là, il veut être vu et entendu. On dirait qu'il veut sortir du cercle intime de ses amis, le cercle restreint des disciples, eh bien, peut-être que c'est que ce qu'il a à révéler concerne la ville entière. En fait, il reprend pour lui l'usage des rois d'entrer dans leur ville pour établir leur pouvoir. Enfin, celui-là, il semble accueillir son rôle de Messie de manière un peu plus sérieuse. Enfin, tout le monde attendait ça. Tous ses disciples l'attendaient, ce Messie tant espéré qui, entrant dans sa ville, va probablement la sauver, voilà, personne ne pouvait s'y tromper, c'est bien lui, il arrive. Sauf peut-être cet ânon ridicule qui ne sied pas vraiment à un roi. C'est un cheval, un pur sang, qu'il lui faudrait comme ces Romains lorsqu'ils entrent dans une ville conquise. Mais n'oublions pas, chemin faisant, que ce petit âne, c'est toi, c'est moi, alors peut-être... Restons à notre place. Enfin, l'important, c'est que le Christ soit là et qu'il vienne enfin régner à Jérusalem. Mais ce jour-là, Jésus se présente pour annoncer publiquement quelque chose qui est de l'ordre. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit jusqu'à présent sur le Père, sur la conversion des cœurs, sur une conduite digne de l'homme et de Dieu, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, c'est ainsi que le salut parviendra au monde. Et je crois bien que par son entrée à Jérusalem, Jésus s'annonce clairement dans la vie des hommes comme un veilleur. Il entre dans sa ville, sa terre, car il l'aime et il veut pour elle ce qui est dans la pensée de Dieu. Et sa ville, c'est toi, c'est moi, c'est chacune et chacun d'entre nous. Mais c'est aussi notre communauté, et il veut y entrer pour prendre soin d'elle et pour la bénir spirituellement, pour la restaurer, pour la guérir quand elle en a besoin. Il veut entrer dans sa ville pour qu'elle dispose toujours plus de clarté, pour qu'elle garde en elle le désir de s'éveiller de jour en jour, pour l'empêcher de perdre espoir, pour lui indiquer la direction de sa vie. C'est du bonheur qui vient. Et avec ce bonheur, la chance de se renouveler et de repartir tout à nouveau. Oui, Jésus arrive sur Jérusalem plein de bénédictions pour elle, et pourtant, quelle est la première chose qu'il fait en apercevant sa ville? Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Et il dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connais laisser les choses qui appartiennent à ta paix. » Alors voilà la première fois que Jésus pleure dans les évangiles, et c'est probablement la seule fois. Et pourquoi pleure-t-il? Parce qu'il est là, les mains pleines de bénédictions pour sa ville, et Jérusalem est aveuglée. Quel drame! Jérusalem veut dire la ville de la paix. Si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Et ça, Jérusalem, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous ensemble, c'est sur nous que Jésus pleure. Mais pourtant, diront certains, Jésus est accueilli comme il se doit à son arrivée. Et oui, c'est vrai, et c'est là le début de l'accueil, le chant de louange. Certains se dépouillent même de leur manteau comme s'ils pressentaient que le maître voulait les revêtir de vêtements neufs, de vêtements de lumière. Oui, Jésus se propose d'entrer dans la vie de chacun. Mais accueillir le veilleur d'évangile, c'est un choix quotidien. Et pour le recevoir, jeter le manteau en signe d'accueil ne suffira pas. Il faudra le cœur et tout le comportement de chaque jour pour toute une vie. Alors voulons-nous nous préparer à recevoir Jésus tout à nouveau? Si oui, la voie par excellence, nous dit le texte, c'est la louange. Une louange sans honte, sans frein, sans complexe, une louange toute spontanée, mais qui apparemment dérange. Et qui dérange-t-elle en priorité dans notre texte? Les responsables religieux, ceux-là même qui devraient être les premiers à discerner l'accomplissement des promesses dans ce Jésus qui arrive dans Jérusalem. Mais eux, ça les dérange, ça les bouscule, ça les ennuie. Toute cette clameur joyeuse, ça les dérange parce que ça ne fait pas vraiment sérieux. Or, Jésus ne cherche pas tant le sérieux que des cœurs authentiquement joyeux. Et qu'avons-nous fait de la joie dans notre Église et dans le monde ? Vous savez que dans les années 50, en France, on riait en moyenne entre 1 et 2 minutes par jour. Aujourd'hui, c'est tombé à 10 secondes. Je parle pour la France, hein. Je ne sais pas en Angleterre, au niveau de l'humour, comment ça se passe, si on devait comparer. Mais où est-elle passée, notre joie ? Bienheureux celui qui sait rire de lui-même, il n'a pas fini de s'amuser. Ça, c'est Joseph Ollier, un prêtre sociologue français, qui a dit cette phrase un jour. Et ça, peut-être que ça commence par là. Et c'est Pierre Desproges qui faisait la remarque intéressante pour nous, qui désirons être entendus du monde. Celui qui ne sait pas rire ne doit pas être pris au sérieux. Alors, savons-nous rire dans notre Église? Savons-nous manifester notre joie? Ou est-ce bien pire, avons-nous perdu notre joie? À la sortie de nos réunions d'église, est-ce que les gens se demandent « Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Est-ce qu'ils nous entendent rire? Est-ce qu'ils nous voient sourire avec des grands sourires sur nos visages? » Nos voisins, quand on rentre, se disent « Oh là, ils reviennent de où, ceux-là ?» Ou pas. Alors, quelle tête faisons-nous lorsque nous sortons d'ici? Non, fais donc taire tes disciples, Jésus. Ils sont trop bruyants, trop exubérants, trop joyeux. Ça ne se fait pas chez nous. Nous sommes sérieux. On ne rigole pas avec Dieu. Ah, la bonne blague. Et quelle est la réaction de Jésus? La réaction, c'est, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Et il en va de même pour nous tous, si nous nous taisons, Dieu se suscitera bien d'autres enfants pour l'adorer et pour se réjouir avec lui. Les rameaux, ce serait comme un message pour nous à ne pas oublier de louer Dieu et d'être un peuple qui vit dans la joie. Mais même là, saurions-nous recevoir ce message? Saurions-nous rire avec Dieu de nos têtes d'enterrement? Aurions-nous peur, peut-être, de rire? Dans la Bible, il y a des commandements qui sont des injonctions négatives. Vous savez, tu ne convoiteras pas, tu ne tueras pas, etc. Et il y a des commandements positifs. Tu aimeras, tu honoreras. Dans les évangiles, les commandements négatifs, celui qui revient en tout cas le plus souvent dans la bouche de Jésus et qu'il nous faut vraiment entendre pour notre vie, c'est « ne crains pas, n'aie pas peur ». N'ayez pas peur, ça revient tout le temps. Et juste derrière, le commandement positif, peut-être le plus positif et le plus récurrent du Nouveau Testament, et qu'il nous faut entendre ce matin, c'est « soyez dans la joie, réjouissez-vous ». Ça revient tout le temps, on l'a même entendu dans la liturgie ce matin. Je crois qu'il y a des passages de la Bible particulièrement importants pour nous apprendre la joie. C'est « ne vous inquiétez de rien », qui reviennent comme des métronomes. « Soyez toujours joyeux », je le répète, « soyez toujours joyeux », « ne vous faites pas de soucis inutiles », mais « réjouissez-vous ». Recevons ce message aujourd'hui et prenons pour nous cette invitation de Jésus. Saurions-nous, de manière toute nouvelle, accepter de rire et de nous réjouir en Église? Accepterions-nous de remettre la louange à l'honneur dans nos cœurs et nos pensées et accueillir le grand roi qui veut visiter son peuple? Encore une dernière remarque sur ce texte pour terminer. Au verset 32, nous lisons que les disciples trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Et par trois fois dans les évangiles, on trouve cette même phrase. Lors de la naissance du Sauveur, les bergers, lorsqu'ils arrivent auprès de Jésus, trouvent les choses conformes à ce qui leur avait été annoncé un peu plus tôt. Et puis Jésus, lorsqu'il envoie préparer ses disciples, qu'il les envoie préparer la Pâque, ils ont trouvé les choses comme il le leur avait dit. Et ici, dans notre texte, où les disciples donc ont obéi à la mission de Jésus, celle qu'il leur avait confiée, eh bien c'est comme ça qu'ils ont trouvé la monture dont Jésus avait besoin pour entrer à Jérusalem. Comme si les hommes et les événements étaient assujettis d'avance à sa volonté. Jésus nous demande de le suivre, mais il ne nous dit pas toujours d'avance sur quel chemin. Il attend seulement notre obéissance et notre confiance, notre mise en route. C'est la conviction inébranlable que ce que Dieu a dit, il l'accomplit. Quand il nous confie un service, nous ne sommes pas limités à nos propres ressources, mais en nous appuyant sur ce qu'il a dit dans sa parole et en y obéissant, nous y trouverons les choses comme il nous l'a dit. Et nous entrons alors dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous y marchions. Dieu donne ce qu'il ordonne. Alors mes amis, saurons-nous rester à notre place et servir le Seigneur dans l'humilité comme cet ânon? Saurons-nous nous prendre peut-être un peu moins au sérieux et rire et nous réjouir un peu plus en Église dans un esprit de louange, de reconnaissance à Dieu? Saurons-nous nous mettre toujours davantage à l'écoute des Écritures et obéir aux directives du Maître et de sa parole afin de trouver dans notre marche et notre service les choses comme Jésus nous les a dit? Ce sont là quelques-unes, en tout cas, des questions que nous pose ce texte aujourd'hui. Puissent-elles nous parler et accompagner notre méditation, notre réflexion et notre foi alors que nous entrons avec Jésus à Jérusalem pour vivre ce temps de Pâques. Amen.